Radio Prague, les informations. Bonjour, le ministre des Affaires étrangères a rencontré les insurgés libyens à Benghazi. La République tchèque va retirer une partie de ses troupes stationnées en Afghanistan et puis le gouvernement a approuvé l'amendement au Code du travail. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, s'est rendu en Libye ce mercredi. Des entretiens avec les membres du Conseil national de transition par intérim, organe qui représente les rebelles libyens, figuraient notamment au programme de cette visite. Le gouvernement tchèque et l'organisation non gouvernementale People in Need ont envoyé à cette occasion une aide humanitaire à Benghazi. Il s'agit d'appareils médicaux destinés à un hôpital de campagne situé à 35 km de Misrata, lieu de violents combats. Par ailleurs, plusieurs enfants libyens malades devraient être transportés et hospitalisés en République tchèque. La République tchèque entend également réduire le nombre de ses soldats opérant en Afghanistan. Environ 200 soldats quitteront donc l'Afghanistan durant la seconde moitié de l'année 2012. D'ici là, la République tchèque aura également retiré son escadron d'hélicoptères et son groupe de forces spéciales. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Prague le chef d'état-major de l'armée tchèque, Vlastimil Picek. 720 soldats tchèques opèrent actuellement en Afghanistan. Le mandat adopté par le Parlement donne à l'armée la possibilité d'envoyer jusqu'à 640 soldats en Afghanistan l'année prochaine. Rappelons que récemment, le président américain Barack Obama avait annoncé le retrait d'ici à l'été 2012 de 33 000 soldats, soit le tiers des forces américaines stationnées en Afghanistan. Suite à cette annonce, le premier ministre Petr Nečas avait indiqué que la République tchèque, en sa qualité de membre de l'OTAN, se comporterait comme un allié fiable. Les négociations concernant l'avenir de la coalition gouvernementale tripartite se poursuivent en coulisses. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le Premier ministre et leader du Parti civique démocrate, principale formation de la coalition, Petr Nečas. Le chef du gouvernement n'a toutefois pas répondu à la question de savoir si la coalition allait continuer dans sa configuration actuelle après jeudi, dernier jour du mois de juin, et date limite fixée par les affaires publiques pour la signature d'un additif à l'accord signé par les trois partis au début de leur collaboration. Le parti Affaires publiques, plus petite formation de la coalition, menace de quitter le gouvernement si les modifications du programme qu'il réclame ne sont pas remplies. Le gouvernement, toujours lui, a approuvé ce mercredi l'amendement au Code du travail présenté par le ministre du Travail et des Affaires sociales. Ce texte modifie notamment le montant des indemnités de licenciement ainsi que la durée maximale des contrats à durée déterminée ou encore des périodes d'essai. La loi permet ainsi de prolonger la période d'essai des employés occupant des positions dirigeantes ou importantes à 6 mois au lieu de 3 actuellement comme pour tous les autres employés. Par ailleurs, des contrats à durée déterminée ne pourront être signés que 3 fois en suivant avec le même employeur et leur durée totale ne pourra pas dépasser 3 ans. Le président de la République, Václav Klaus, a signé ce mercredi l'amendement à la loi dite sur les devises permettant aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne d'acheter des terres agricoles et autres biens fonciers en République tchèque. L'interdiction de leur vente avait été obtenue par le gouvernement tchèque lors de l'adhésion du pays à l'Union européenne en 2004. Cette exception pour une période transitoire était arrivée à son terme début mai. À la différence de la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne ont demandé à Bruxelles une prolongation de la période transitoire. On passe au tennis. Après avoir battu la Bulgare Svetlana Pironkova en 3-7 en quart de finale mardi, Petra Kvitova sera opposée à la Biélorusse Victoria Azarenka ce jeudi en demi-finale du tournoi de Wimbledon. Tête de série numéro 8, la Tchèque avait déjà atteint ce stade de la compétition sur le gazon londonien l'année dernière. Et puis l'équipe féminine de République tchèque de basket affronte la Croatie en quart de finale du championnat d'Europe ce mercredi soir à Lodz en Pologne. En cas de victoire, les Tchèques, vice-championnes du monde en titre, seront non seulement qualifiées pour les demi-finales, mais auront également l'assurance de participer au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi de nouveau très ensoleillée. Les nuages sont de retour ce jeudi, jour de la fête des Charka. C'est par conséquent un temps couvert et même pluvieux qui régnera sur la majeure partie du territoire. Les températures sont en légère baisse et varient entre 22 et 26 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Prague, à l'écoute du programme en français. Merci à Guillaume Narguet pour le bulletin d'information. Dans la première partie de ce programme, nous reparlerons d'abord du Kosovo et surtout de la fin de la mission des soldats tchèques engagés dans la KFOR. Anna Kubišta vous en dira plus dans quelques instants. Ce sera juste avant de revenir sur le veto présidentiel utilisé par Václav Klaus la semaine dernière pour bloquer une nouvelle loi élaborée pour lutter contre la pollution dans l'est du pays, en Moravie-Silésie. Et puis dans la deuxième partie du programme, nous irons à Třebíč, en Moravie, une ville connue notamment pour son ancien quartier juif qui fait figure et qui figure, pardon, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous écoutez Radio Prague et vous avez bien raison. Je vous rappelle que dans quelques semaines, Radio Prague va fêter ses 75 ans d'existence et nous vous tiendrons évidemment informés des célébrations préparées à l'occasion de cet anniversaire sur notre site www.radio.cz. Les soldats tchèques quittent donc le Kosovo. C'est ce mardi que s'est officiellement terminée leur mission sur la base militaire tchèque de Sajkovac. Un retrait qui, concrètement, va toutefois encore prendre 4 mois, comme nous le précise Anna Kubišta.
Cela faisait 12 ans que l'armée tchèque était implantée au Kosovo dans le cadre de la KFOR. Plus de 8000 militaires, membres de 23 unités, ont participé à cette mission dans cette ancienne province serbe qui a entre-temps déclaré son indépendance. Alors quel a été le travail accompli sur place par la mission militaire tchèque pour Jiří Šedivý, ancien chef d'état-major et également ancien commandant du contingent tchèque en Bosnie dans le cadre de l'IFOR, le bilan est positif.
Já mám za to, že armáda České republiky svými vojáky vytvořila velmi příznivé podmínky pro to, aby se...
Je pense que les soldats tchèques ont permis de créer de bonnes conditions pour que la situation s'apaise, afin que les problèmes puissent être réglés, sinon de manière démocratique, en tout cas humaine. L'armée tchèque laisse derrière elle un bon bilan. Elle a protégé les minorités en danger, comme par exemple la minorité serbe au nord du pays.
Les soldats tchèques ont fini par être intégrés aux forces internationales de l'OTAN en 2004. Outre leur présence physique sur la base militaire, la République tchèque a participé à toutes les missions internationales dans les Balkans depuis les années 90. Vlastimil Pecek, l'actuel chef d'état-major des armées tchèques.
Je pense qu'on a bien travaillé ici. Après tout, la République tchèque est vraiment proche culturellement des Balkans.
Pour le ministre de la Défense, Aleksandr Vondra, le départ du Kosovo sonne ainsi la fin de la présence tchèque dans une région désormais stabilisée. Pour lui, la suite des événements au Kosovo est dorénavant dans les mains des politiques ainsi que de celles de forces de police internationales et d'organes juridiques qui peu à peu remplacent la KFOR sur place. Pour Jiří Šedivý, l'expérience des soldats tchèques dans les Balkans leur a permis d'aborder leur mission actuelle en Afghanistan d'une autre façon.
Évidemment, le milieu est totalement différent, mais un des aspects importants, c'est que dans les cadres des missions de l'IFOR et les suivantes, nous avons pu accumuler les expériences. Celles-ci nous ont servi plus tard dans nos activités en Afghanistan. Nos soldats y sont arrivés bien préparés. Je pense que ce qui se fait là-bas est positif. Et puis nos premières missions, notamment en Bosnie-Herzégovine, ont été fondamentales pour notre entrée dans l'Alliance Atlantique.
První mise na Balkáně, konkrétně v Bosně-Hercegovině, byly velmi důležité pro naši přípravu ke vstupu do Severské aliance.
Une équipe de 99 hommes est arrivée à la mi-juin sur la base de Sajkovac. Ce sont eux qui seront chargés de vider les lieux et de rapatrier le matériel du Kosovo en République tchèque. Date butoir prévue fin octobre 2011.
Suite des faits et événements sur Radio Prague avec le président de République tchèque Václav Klaus, bien connu pour son opposition au tenant du réchauffement climatique, qui vient de mettre son veto à une loi destinée à améliorer la qualité de l'air. Cette loi prévoyait notamment d'interdire la circulation des véhicules ne respectant pas certaines normes environnementales ou encore de permettre aux automobilistes de circuler gratuitement sur certaines portions d'autoroute afin de contourner villes et villages. Pierre Maignan pour plus d'infos.
À l'origine de ce projet de loi, des élus de la région Silésie-Moravie, qui se plaignent depuis longtemps de la qualité de l'air de ce territoire très industriel. En début d'année dernière, un smog de pollution dépassant 11 fois les limites autorisées envahissait la ville d'Ostrava. À l'époque, des mesures avaient été prises, mais elles se sont avérées insuffisantes. En mars dernier, avec le soutien du ministre de l'Environnement, Tomáš Chalupa, un groupe de députés soumettait donc un nouveau projet de loi à l'approbation de la Chambre des députés. Le texte prévoyait d'interdire la circulation aux véhicules trop vieux et donc très polluants. Une autre mesure consistait à contraindre les entreprises à limiter leurs rejets lorsque de fortes concentrations de particules polluantes étaient relevées dans l'air. Par ailleurs, il s'agissait également de renforcer la coopération avec les autorités polonaises en matière de contrôle de ces émissions. L'opposition social-démocrate, CSSD, était globalement d'accord avec le texte, jugeant cependant qu'il n'allait pas assez loin. Un des principaux intéressés, Petr Kainar, le maire de la ville d'Ostrava, déclarait ainsi.
Je pense que c'est évidemment une bonne chose, le fait qu'apparaisse cette idée de zone de basses émissions. Même si cette première ébauche de loi n'est pas parfaite, je pense que sur le long terme, nous pouvons progressivement l'améliorer et mieux identifier les paramètres de ces mesures et les zones où nous pouvons commencer à les appliquer. Cependant, on peut aujourd'hui clairement établir que 90% des automobiles circulant en ville respectent les limites actuelles de rejet de gaz polluant. La loi apporte une solution encore incomplète, mais il vaut mieux résoudre le problème partiellement que ne pas le résoudre du tout.
Petr Kainar ajoutait qu'une étape supplémentaire pourrait être la création de zones à péage dans certaines villes, sur le modèle de ce qui existe à Londres par exemple. Les communistes, en revanche, s'étaient largement positionnés contre le texte, au prétexte notamment que celui-ci allait ouvrir de nouveaux horizons à la corruption. Surtout, cette loi constituait pour eux une attaque en règle contre le secteur industriel. Curieusement, ce sont des arguments repris par Václav Klaus pour justifier son veto. Selon lui, outre le fait que les sénateurs se sont montrés réservés vis-à-vis de ce texte, celui-ci serait trop difficile à mettre en pratique et imposerait des contraintes trop importantes aux entreprises sans prendre en compte leurs spécificités. Pour le président, qui considère ce qu'il appelle l'environnementalisme comme un nouveau totalitarisme, le seul effet de la loi serait, je cite, « de détériorer l'environnement juridique et commercial ». Il a ajouté qu'il avait conscience que sa décision était « polémique », mais qu'il se devait de la prendre.
Voilà, c'est déjà la fin de la première partie du programme en français de Radio Prague. On continue maintenant avec un nouveau chapitre de l'histoire. Cet été se tiendra à Třebíč, en Moravie, le 8e festival de la culture juive organisé par Dasha Juranova et la municipalité de Třebíč. L'occasion de se pencher aujourd'hui sur l'histoire des juifs de la région, qui réserve quelques surprises. Pour en parler avec David Alon, Pavel Kucha, très actif en milieu associatif, et que David Alon a déjà invité à plusieurs reprises au micro. On l'écoute.
Chapitre de l'histoire.
Pavel Kucha, bientôt se tient le 8e festival de culture juive à Třebíč. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu?
Le festival de culture juive à Třebíč s'appelle Shavaim, ce qui en hébreu veut dire les cieux. Ce sera une semaine, la dernière semaine de juillet. Il y aura plusieurs concerts de musique, surtout la musique klezmer, un théâtre. On dit que c'est le monument juif le mieux préservé en Europe. C'est le quartier juif le mieux préservé en Europe. Les juifs vivent en Třebíč depuis le Moyen-Âge sans interruption, ce qui est une exception parce que les juifs ont été expulsés de l'Europe occidentale et en Europe orientale ils sont venus un peu plus tard et en Pologne, en Allemagne, beaucoup de monuments, beaucoup de quartiers juifs ont été complètement détruits. Tandis que la Moravie y représente une exception. Et Třebíč, c'est le cas où le quartier était le mieux préservé. Il y a un ensemble de 120 à peu près maisons qui sont sur les mêmes endroits avec les mêmes fondements depuis le Moyen-Âge.
Est-ce que Třebíč a été détruite pendant la guerre?
Malheureusement, les Juifs de Třebíč, en majeure partie, ils ont été tués. On estime à peu près 80% des Juifs de Třebíč ont été tués. À Třebíč même, il y avait un endroit de ramassement des Juifs, où même les Juifs de villages et de petites villes autour ont dû se rendre pour être envoyés dans les camps. Aujourd'hui, il y a seulement une vieille femme qui est encore juive. Il y a quelques personnes qui ont un parent juif, mais il n'y a pas de communauté juive à Třebíč. Ce qui concerne les monuments, il y a deux synagogues qui sont restées intactes, tout le quartier qui est resté intact. Par contre, on doit dire que après 1848, ce qui est l'année où les juifs d'Autriche-Hongrie ont atteint le plein droit civique, beaucoup de juifs ont quitté ce quartier. Alors, avant la Shoah, avant la Seconde Guerre mondiale, les juifs représentaient déjà seulement une minorité dans le quartier même juif, qui est devenu un quartier populaire. C'était des ouvriers, surtout des ouvriers d'usines qui habitaient le quartier. Pendant le communisme, il y avait des tziganes qui habitaient le quartier, et des tchèques aussi. Le communisme, à cause du mauvais état des maisons, le régime a voulu détruire tout le quartier. C'était déjà approuvé en 1988. Heureusement, une année plus tard, la Tchéquie, ou bien la Tchécoslovaquie à l'époque, est devenue démocratique et cela a sauvé le quartier juif. Ce quartier a été sauvé et reconstruit grâce au fonds du ministère de culture tchèque.
Est-ce qu'on connaît un peu l'histoire des rapports entre les Juifs et les autres habitants de Třebíč depuis leur installation au Moyen Âge, voire sur l'histoire individuelle des maisons, leurs habitants?
La communauté juive de Třebíč était dépendante du monastère qui est sur la rive gauche de la rivière, comme le quartier aussi. Et les bons rapports entre le monastère chrétien et les habitants juifs qui payaient les taxes à ce monastère était une des raisons pourquoi le quartier a été inscrit sur la liste de patrimoine mondial UNESCO. Concernant les cas individuels, les historiens ont déjà collectionné des histoires familiales. On sait alors dans quelle maison quelle famille habitait. Si vous visitez Třebíč, vous pouvez le voir. Il y a deux expositions dans la synagogue elle-même. Il y a une exposition qui est basée plutôt sur la culture juive, sur la religion. Et dans la maison qui est à côté de la synagogue, cette maison, elle est un musée qui représente la vie d'une famille moyenne juive. Alors en bas, il y a un magasin, en haut, il y a une cuisine, il y a un appartement privé, où vous pouvez voir vous-même comment une famille juive vivait à Třebíč l'autre fois.
Vous avez évoqué tout à l'heure avec moi une loi qui émanait des Habsbourg au XVIIIe siècle concernant des restrictions de naissance pour les juifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et est-ce que les habitants de Třebíč ont été touchés par ça?
Aux années 20 du XVIIIe siècle, une loi antisémite est entrée en vigueur en Moravie. Cela soit dit loi des familians. Pour limiter le nombre des habitants juifs en Moravie, seulement le fils aîné de chaque famille avait le droit au mariage. Alors aux années 20 du XVIIIe siècle, les autorités ont compté les juifs. Chaque famille a reçu un numéro, le droit d'habiter en Moravie. Ce numéro a été hérité par le fils aîné. Alors les autres fils, ils ont eu un problème. Ils pouvaient rester en Moravie, mais vivre dans des pacte semi-légaux ou bien partir. Et pas mal de Juifs de Moravie partaient vers la Hongrie où il n'y avait pas une telle loi antisémite. Grâce à cela, le nom Třebíč, c'est la forme allemande de Třebíč, est un nom qui est connu dans les cercles juifs, parmi les juifs, parce que dans le monde, il y a des centaines de personnes qui portent ce nom. Certains juifs qui sont partis de Třebíč se sont installés en Burgenland. À l'époque, c'était une partie de la Hongrie, maintenant ça fait partie de l'Autriche. Et comme ils venaient de Třebíč, les habitants germanophones les appelaient Třebíč. C'est devenu leur nom de famille. Et après, plus tard, ils sont émigrés vers les États-Unis, vers Israël. Et grâce au Facebook, j'ai retrouvé certains de ces personnes. Je suis en contact par exemple avec Bob Trebić qui habite aux États-Unis, ou bien avec Yael Trebić qui est une femme qui habite en Israël. Ils savaient pas beaucoup de choses sur leur vie, sur la ville qui leur a donné le nom. Maintenant, grâce au contact, ils commencent de nouveau à s'intéresser. Et on est en contact, ils sont assez ravis, ils sont heureux qu'on fait un festival dans la ville qui est liée avec leur famille.
Merci beaucoup, Pavel Kucha.
C'était donc Pavel Kucha au micro de David Allon. Pour écouter cette émission ou une autre émission de Radio Prague, c'est tout à fait possible et c'est sur notre site internet www.radio.cz. Vous pourrez aussi y découvrir nos pages spéciales consacrées notamment au 75e anniversaire de la radio, mais aussi par exemple au Festival international du film de Carlo Vivari qui commence ce week-end dans la station thermale de Bohême et dont nous reparlerons évidemment sur nos ondes.